VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Les midi à Abidjan, 13h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Centrafrique, la force française Sangari, s'engager dans le pays depuis décembre 2013, va passer de 1700 à 900 hommes seulement d'ici fin juin, a annoncé aujourd'hui le porte-parole de l'armée française. Un retrait qui s'inscrit dans un processus de désengagement amorcé il y a déjà plusieurs mois, a souligné le colonel Gilles Jaron. Centrafrique toujours, les examens du brevet des collèges fortement perturbés hier à Bangui par des accrochages entre Antibalaka et éléments de la MINUSCA, la force onusienne. Les explications de l'inspecteur d'académie Josias Renaba au micro de Félix Epassis Zembrou.
Il y a eu affrontement entre les Antibalaka, d'après ce que nous avons entendu, avec des éléments de la MINUSCA, je crois burundaise. Et bon, comme les tirs étaient nourris, les enfants ont eu non pas des blessures par la balle, mais ils ont été sous le choc. Donc beaucoup sont évanouis, d'autres ont eu des convulsions. On les a tous amenés à l'hôpital communautaire d'abord, et certains ont été amenés à l'hôpital général, précisément là où il y a le médecin sans frontières. Donc ça faisait à peu près 75 élèves au niveau de l'hôpital communautaire et 9 au niveau de l'hôpital général. Donc, le cabinet que j'ai informé, tout comme le ministre, se sont rendus sur place pour assister les élèves.
Josias Renaba, inspecteur d'académie à Bangui. À l'origine de ces affrontements, selon des témoins, les efforts des troupes burundaises pour récupérer un véhicule volé par les Antibalaka et le rendre à son propriétaire. Le président nigérian Muhammadu Buhari en visite aujourd'hui au Tchad. Deuxième étape de son premier déplacement à l'étranger depuis son accession au pouvoir, après le Niger. Une tournée placée sous le signe de la lutte contre Boko Haram. Le général Buhari doit avoir des consultations à ce sujet avec le président tchadien Idriss Déby Itno. Les pays de la coalition anti-Boko Haram ont finalement trouvé un homme à poigne pour diriger la force d'intervention militaire régionale qui doit combattre le groupe islamiste nigérian. Il s'agit d'un haut gradé de l'armée nigériane, le major général tout court Youssouf Bourataï, qui a assumé hier ses fonctions de commandant en chef de la force d'intervention conjointe multinationale à N'Djamena au Tchad. Forte de 8700 militaires, policiers et civils, cette force regroupe le Nigeria et ses voisins, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin. N'Djamena est également le quartier général de la force française Barkhane qui se bat contre les djihadistes au Sahel. Toujours concernant la guerre contre Boko Haram, Amnesty International demande à la Cour pénale internationale d'engager des poursuites contre des hauts gradés de l'armée nigériane impliqués dans des exactions. L'Organisation de défense des droits humains, basée à Londres, dit avoir suffisamment de preuves en ce sens dans un rapport publié hier. Les précisions de Stephen Cockburn, directeur adjoint Afrique de l'Ouest et du Centre, Amnesty International, au micro de Bagassi Koura.
Ce que nous avons découvert, c'est des évidences claires et nettes des crimes de guerre massifs commis par les forces de sécurité nigériennes dans le combat contre Boko Haram. Les chiffres principaux qui sont accablants, nous avons trouvé qu'il y a au moins 7000 personnes qui sont mortes de faim, de soif, d'asphyxie, de maladies ou même de la torture dans les prisons et les lieux de détention. Plus que 1200 personnes qui ont été exécutées en toute illégalité par l'armée et leurs milices, y compris dans une journée, il y avait plus de 640 personnes, des hommes et des garçons tués après avoir fui une prison suite à une attaque de Boko Haram. Il y avait plus de 20 000 personnes qui ont été arrêtées et détenues arbitrairement.
Est-ce que vous mettez en cause les hauts commandements de l'armée à Abuja ou peut-être à Lagos dans ces crimes, ou est-ce que ce sont des hommes de terrain seulement qui auraient commis ces actes-là?
Bon, nous avons nommé 9 hauts responsables. C'est vraiment les chefs de l'armée, c'est vraiment les personnes au plus haut niveau qui devraient faire l'objet des enquêtes sur leurs responsabilités, soit individuelles ou soit hiérarchiques. Donc, nous disons qu'il y a assez d'évidence pour faire les enquêtes sur eux, mais nous disons aussi qu'il faut faire les enquêtes sur une nombre plus large de personnes.
Et là, vous demandez au nouveau président de mener des enquêtes pour établir les responsabilités et peut-être prendre des sanctions.
Exactement. Nous avons une opportunité en or maintenant avec l'élection et l'inauguration du président Buhari. Il a déjà dit qu'il veut améliorer la situation des droits humains dans le pays. Donc maintenant, il faut faire preuve de cet engagement. Évidemment, le premier pas dans la résolution d'un problème, c'est vraiment d'admettre qu'il y a un problème. Donc maintenant, c'est l'opportunité d'effectuer un changement d'approche reconnaître la gravité du problème et prendre des mesures nécessaires pour mettre fin à ces violations et s'assurer que des comptes soient rendus. Pour nous, ça veut dire qu'il faut ouvrir des enquêtes indépendantes et impartiales, y compris sur ceux que nous avons nommés dans le rapport, et mettre fin aux arrestations de masse, mettre fin à la torture, aux exécutions extrajudiciaires et aux conditions de détention inhumaines.
Stephen Cockburn d'Amnesty International était joint à Dakar, au Sénégal.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Reprise aujourd'hui à Vienne, en Autriche, des négociations sur le programme nucléaire iranien. Le département d'État américain souligne que l'objectif reste de parvenir au plus tard le 30 juin à un accord définitif limitant les ambitions nucléaires de l'Iran. Timothée Donormaille.
Les négociateurs du groupe 5 plus 1, à savoir les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, entameront aujourd'hui des réunions avec la délégation iranienne conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a indiqué hier la porte-parole du département d'État, Mary Harf, que cite l'AFP. Absent à ces négociations suite à son grave accident de vélo dimanche dans les Alpes françaises, le secrétaire d'État américain John Kerry compte être présent à Vienne pour la conclusion de ces négociations. L'Iran et les puissances mondiales ont conclu un accord de principe le 2 avril à Lausanne en Suisse et s'attelleront à Vienne, et cela jusqu'au 30 juin, à l'élaboration du texte définitif.
Au Maroc, appel à la démission du ministre de la Communication Mustapha Khalfi suite à la controverse suscitée par un concert de Jennifer Lopez. Des membres du Parti islamiste de la justice et du développement ont été choqués par la performance de la chanteuse américaine au festival Mawazine qui a été diffusé à la télévision nationale. Pourquoi une telle levée de bouclier? Idriss Fall a posé la question à Mustapha Tossa, journaliste marocain à Paris.
Dans le cadre du festival Mawazine, qui est un festival international auquel participent de nombreuses stars de la chanson mondiale, Jennifer Lopez avait un spectacle à Rabat. Les images de ce spectacle transmises par la télévision marocaine ont été jugées comme dérangeant, entre guillemets, la morale publique et la morale sociale du Maroc. Un certain nombre de personnes ont été choquées. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement avait demandé à ce qu'il y ait une enquête. Pourquoi de telles images jugées permissives avec des positions et des postures lascives et provocantes. Et donc il y a eu tout un scandale dans l'opinion.
Pourquoi l'avoir invitée? Parce que Jennifer Lopez, tout le monde sait qu'elle te produit comme ça.
La question est d'autant plus pertinente que le festival Mawazine avait déjà programmé dans d'autres éditions des chanteuses entre guillemets aussi chaudes, aussi hautes dans leurs performances. On se rappelle aussi quand Shakira était à Rabat, il y avait d'autres stars et du show américain qui étaient déjà venus à Mawazine et ça n'avait pas provoqué un tel scandale entre guillemets. Alors pourquoi cette fois-ci? Alors peut-être que ça intervient dans un contexte de débat extrêmement sensible au Maroc où il y a un parti islamiste au gouvernement mais qui n'arrive pas à trouver ses marques.
Et le Mawazine, je crois que c'est le roi qui a le dernier mot sur le choix de ceux qui viennent, non?
Non, c'est pas le roi. Le roi n'y est pour rien dans le casting de ces stars. C'est une association culturelle dirigée certes par un proche du roi qui s'appelle Monsieur Majidi, mais le casting il est international. Le casting, personne ne peut remettre ou l'a remis en cause le côté artistique de la chose. Toute la question est de savoir pourquoi des images de Jennifer Lopez passées à la télévision ont provoqué un tel tollé, un tel scandale aujourd'hui, alors que l'année dernière et l'année d'avant, des images aussi provocantes, aussi sensuelles, entre guillemets, sont passées presque inaperçues. Ce qu'il faut chercher, c'est l'explication dans le cadre politique, dans le cadre social, et ça a un rapport aussi à voir avec le fait qu'un parti islamiste, le PGD qui est au pouvoir et dont le chef et le premier ministre du gouvernement arrive à une certaine séquence où il ne peut plus arrêter les contradictions et arrêter les antagonismes et d'où ses prises de position très marquées au sein de son gouvernement.
Mustapha Tossa, un journaliste marocain joué à Paris par Idriss Fall. Scandale de la FIFA, l'Américain Chuck Blazer, ancien membre du comité exécutif de la FIFA de 1996 à 2013, a reconnu que des pots de vin avaient été versés lors des processus d'attribution des Coupes du Monde à la France en 1998 et à l'Afrique du Sud en 2010. Et pour terminer, une explosion dans une station d'essence à Accra, au Ghana, aujourd'hui a fait au moins 73 morts et de nombreux blessés. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.